Je possède des tubes.
Ah non! Ah oh! Bonjour. Oh, faut se remettre dans le bain. Hein. Bonjour! Salut Handman, merci pour ton Prime, merci beaucoup. Merci Niascorp, merci. Merci Amriou. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. La lumière est très sympa quand tu fermes pas le volet. Ouais, enfin, ça dépend de la luminosité dehors. Hein. Ouais, il fait gris. Mais ouais, non, c'est sûr, un peu de lumière naturelle. Ça fait du bien au teint. Salut, comment ça va? Alors moi, ça va mieux. Ça va mieux. La crève, elle est partie en bonne partie quand même en une nuit. Ça peut être super surprenant, hein, parfois, les grippes. Vraiment, je me suis réveillé vendredi matin, j'étais en mode tiens. J'ai mal à la tête, mais moins violent que ces derniers jours. Crie pas victoire trop vite. Ouais, non, c'est ça. Je crie pas victoire trop vite. Ça va mieux. Alors, fallait un bon reset de l'organisme. Ouais, faut croire. Ouais, non, j'ai fait un milliard de siestes et de toute façon, j'avais que ça à foutre, hein. Mais j'étais malade! Oh la maladance! Vraiment quoi? Un an déjà, merci Elassine, merci à toi, merci beaucoup. Faut modifier la date de ta barre de don. Ah ouais! C'est juste. Je l'ai foutu où? Elle est où ma. Elle est là. Non, c'est pas ça. C'est ça. C'est le 23 mars, c'est ça? Hop. Bon, j'espère que d'ici là, on aura des biforts. Merci à tous pour vos dons, d'ailleurs. On a passé les 160 000 balles jeudi grâce à Léa. Incroyable. Incroyable. Merci Léa. Bravo à vous. Merci pour vos dons. Hein. Pas trop un crève-cœur de laisser la main sur Backseat. Si, 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 si. Enfin, si, si, bien sûr, mais en fait, c'est exactement le scénario noir dont j'avais peur. C'est de me dire qu'en fait, tout le monde est remplaçable sur Backseat dans l'absolu. Ça peut arriver, hein, quelqu'un a un accident, quelqu'un a un empêchement le jour J et tout, ça peut arriver. Mais si moi, j'ai un empêchement le jour J, putain, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé la veille. C'est lundi, hein. Lundi, je me suis réveillé avec une maladie, genre pas possible. Je me suis dit, putain, mais c'est pas vrai. Après 15 jours d'angine, de virus into angine, into gorge irritée, etc. Lundi, je me réveille dans une maladie pas possible. Je dis, merde, fais chier. Mardi. Je préviens Quentin et François en disant putain les mecs je suis malade. Ils me disent non mais t'inquiète, t'inquiète. Tu crois, c'est bon. Du coup mercredi matin on fait la réunion de préparation de l'émission et tout, je suis pas bien mais je me dis vas-y c'est pas grave, je me défonce à la vitamine C, ça va le faire et tout. Ça va vraiment pas mieux. Le mercredi après-midi je vais chez le médecin, il me fait un test, il me fait non bah c'est pas le Covid, c'est la grippe. Mais bon c'est sûr, c'est la grippe. Je leur ai fait chier. Merde. Elle dit non, vous inquiétez pas, il n'y a rien à faire. Hein. C'est un virus de merde, la grippe. Hein. Vous restez à la maison, Doliprane, merci, au revoir. Rien à faire. Du coup, je redis à Quentin et François, je leur dis, les gars, c'est chaud, je peux pas et tout. Ils me disent non, mais t'inquiète, on refait un point demain matin. Ils voulaient pas y croire. On refait un point demain matin. Et jeudi matin, je me réveille pareil, je suis dans une maladie, mais genre terrifiante. Et du coup, je leur dis, mais vraiment, les mecs, je peux pas faire l'émission. Du coup, on fait quoi? On l'annule et tout. On commence à réfléchir. Je dis, bon, l'avantage, si je puis dire, c'est qu'on n'a pas de bifort sponsorisé. Donc, on s'assoit pas sur de l'argent, tu vois, techniquement. Donc, bon, à la limite, on peut se permettre d'annuler cette émission. En même temps, c'est relou parce que toutes les équipes sont prêtes. L'installation du matos commence en début d'après-midi. Donc, il faut. Si on annule l'émission, il faut qu'on prévienne vite et en même temps c'est chiant pour les partenaires parce que même s'ils travaillent pas, bah, ils ont quand même bouclé les plannings, etc. C'est pas comme si on prévenait à l'avance quoi. Et puis surtout, c'est chiant pour les invités, quoi. Il y a des invités qu'on a calés, qui ont annulé des trucs pour pouvoir venir à Backseat et tout. Donc je me dis, oh merde, fais chier et tout. Bon, finalement, on réfléchit à 20 solutions possibles. Et si je l'animais depuis chez moi? Et François, il me dit, mais tu veux pas l'animer en visio? Parce que si t'es contagieux, faut pas que tu viennes, mais tu peux l'animer depuis chez toi. Et je leur dis, mais les mecs, je suis même pas en état d'animer quoi que ce soit. En fait, c'est même pas ça le problème. C'est que je suis vraiment pas en état, quoi. Et du coup, je leur dis, mais sinon, on propose à Léa d'animer. Et ils me disent, ah ouais, ça se tente, faut voir, je sais pas. T'avais quoi? J'avais la grippe. Du coup, j'appelle Léa. Elle me dit, ça va? Oula, t'as pas l'air d'aller, c'est quoi cette voix? Je dis, non, ça va toujours pas. Elle dit, ah merde, bah, du coup, on fait quoi? Je lui dis, bah écoute, je t'appelle, parce que justement, je voudrais te proposer, si ça te dit, d'animer à ma place. Elle me dit, ah, oh, t'es malade, mais c'est mort, je peux pas, je suis incapable et tout. Je lui dis, oh, pas de syndrome de l'imposteuse avec moi, hein. Où est ton féminisme, Léa? Elle me dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Je lui dis, voilà, écoute. Tu t'as déjà Popole, tu sais faire, tu connais l'émission par cœur, ça fait 2 ans que tu l'as fait. Elle dit, ah ouais, mais tu penses vraiment à tout? Je fais franchement, ouais. Et surtout, je lui vends le truc en lui disant, mais tu sais quoi, Léa, on s'en fout, viens, ça va être marrant. Elle me dit, franchement, ouais. Je dis, viens, on s'en fout. C'est ça aussi qui est bien avec Backseat, c'est que c'est notre émission, on fait ce qu'on veut. On peut se permettre d'improviser des trucs en mode. C'était pas prévu, on l'a jamais fait, et bah tu sais quoi, viens, on le fait, on verra bien. Elle me dit, vas-y, tu sais quoi, ça va être trop drôle, ok, vas-y, on y va. Donc voilà, elle avait peur évidemment, mais elle a été accompagnée pour toute la préparation par Laurent, par François, par Quentin et tout. Donc elle m'a dit, putain, ils ont été au top, ils m'ont trop briefé, ça a été parfait et tout. Et donc, morale de l'histoire, bah, vous avez vu ce que ça a donné, hein. Léa, elle a assuré comme une chef. L'animation de l'émission, elle a grave géré. C'est vraiment pas facile d'animer Backseat. C'est vraiment pas facile d'animer Backseat au pied levé. Mais elle a pris ça quand il fallait le prendre en mode bon, on va le faire, on verra bien. Tu veux que je te dise? T'es conscient que t'es le premier streamer et viewer de ta propre chaîne Twitch? Ouais. Et donc, du coup, voilà. C'est exactement ça l'esprit Backseat. On verra bien. On le fait, puis on verra bien. Puis au pire, ça se passe pas bien, ça se passera bien quand même. Parce qu'en fait, tout le monde est là pour que ça se passe bien, donc ça peut pas mal se passer. Une émission où tout le monde fait en sorte que ça se passe bien. Bon, bah ça va bien se passer. Effectivement, ça se passe bien. Let's go, tout le monde a été au top. Moi, je culpabilisais de ne pas pouvoir être là pour les gens dans le public. J'ai hésité, parce qu'en plus, j'habite pas très très loin du studio de tournage. J'ai hésité toute la journée. Je me suis dit, vas-y, je vais quand même me mettre une motive et faire l'aller-retour. C'est à 15 minutes à pied. Je vais juste passer avec un masque, faire un coucou aux gens en disant, je suis désolé, je peux pas rester. Je voulais juste vous voir pour vous dire bisous, merci d'être venu, merci pour vos dons et tout. Mais en fait, j'étais dans un état tel que même marcher 15 minutes, c'était pas possible. C'est vraiment là. Du coup, alors on a décidé que je passerais faire une tête. Je passerais une tête en visio pour faire coucou. Masque plus couette chauffante. Ouais, j'ai hésité. J'ai dit, vas-y, c'est 15 minutes à pied, on y va. Sous la pluie et tout. Mais donc, morale de l'histoire. Ça s'est très bien passé, je suis très content. Je viens d'appeler Léa d'ailleurs pour la féliciter et la remercier. Elle était trop contente. T'as pris du goût à déléguer? Tu vas quand même y retourner jeudi pro? Oui, non, je vais y retourner. Oui, bien sûr, je vais y retourner. Non, mais j'ai quand même très envie d'animer Backseat, hein. Mais en tout cas, je suis très content. Je me suis surpris moi-même à laisser l'animation de Backseat à quelqu'un d'autre que moi. Et ben je suis pas mécontent d'avoir pris ce risque-là. C'est l'histoire de Backseat. Une éternelle prise de risque. Et à la fin, eh ben on est content. T'avais dit que ça arriverait jamais. Ah ouais, moi dans ma tête, c'était pas. Dans ma tête, ça avait pas de sens. Dans ma tête, ça avait pas de sens. Laisser l'animation de Backseat à quelqu'un d'autre que moi, je me disais, mais c'est absurde. Bien sûr que non. Le host d'un talk show Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu Drucker ne pas animer Vivement Dimanche. On n'a jamais vu. Enfin, c'est, enfin, je sais pas. C'est pas. Je, non pas que je me compare à Drucker, mais c'est que ça a du sens. Le host d'une émission anime son émission. Bon, et bah finalement, la preuve que quand les circonstances l'imposent, et bah écoute, on fait autrement et voilà, hein. Jean-Luc Mélenchon se dit la même chose. Pareil, la France insoumise sans Jean-Luc, la gauche sans Jean-Luc, c'est pas possible. Personne n'imagine. Voilà, c'est pareil. Je suis à Abaxide ce que Jean-Luc Mélenchon est à la gauche. Est-ce que tu étais en contact avec Léa pendant l'émission pour l'aider? Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, j'ai laissé l'équipe faire. De toute façon, j'étais pas en état. Hein. J'étais pas en état de. Moi, j'étais en état de suivre l'émission et de raconter trois conneries dans le chat. Ce sera sur un t-shirt. J'avoue, on fait un t-shirt Backseat avec écrit Si Jean peut laisser Léa animer Backseat, Jean-Luc peut bien laisser sa place. À une femme. Eh, la preuve. La preuve. Le monde s'est pas effondré, hein. T'as fait de la modération? Ah ouais, bah du coup, j'ai modéré, ouais. Ça se passe comment si tu dis des dingueries dans le chat et que tu te fais ban? Bah je me fais ban, c'est tout. Mais en vrai, vous avez raison. L'expérience pour moi était hyper bizarre. Hein. J'ai vraiment regardé Backseat. Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé Backseat. Backseat, c'est une émission que j'ai jamais vue en live. Je la regarde en replay, évidemment, mais j'ai jamais eu l'expérience de voir Backseat. C'était super bien. Du coup, ça m'a donné plein d'idées. Plein de critiques, évidemment. Mais l'expérience est cool, ouais, j'ai bien aimé. T'as fait un don, oui, tu la conseilles, ouais. Du coup, t'as vu des défauts, évidemment, j'ai vu que ça. Ça t'a pas trop stressé? Non, 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 ça m'a pas stressé. De toute façon, à partir du moment où je prends la décision, ça sert à rien de stresser. Je mets les clés entre les mains de Léa. Je sais qu'elle est entourée par l'équipe de prod avec qui je travaille, etc. Je connais les équipes. Je sais que Léa connaît l'émission. J'ai pas besoin de stresser. Enfin, il y a un moment, c'est bon, je prends la décision. Ça va rouler comme ça va rouler. Ça donnera ce que ça donnera. Au pire, ce sera raté. Et alors, c'est pas grave. Et encore, ça veut dire quoi rater? Qu'est-ce qui change entre le visionnage en live et le en replay pour toi? Bah pour moi, ça change tout. Le visionnage en live, c'est en direct, t'as le chat qui est là tout de suite. Tu peux pas faire pause et reprendre plus tard, tu vois. J'ai dû choisir mon moment pour aller pisser, tu vois. Je m'autorise à rater 4 minutes de l'émission, à quel moment je choisis, tu vois. Ah. C'est marrant, le quiz à la con semblait être la séquence la plus dure à animer. C'est pas facile à animer le quiz à la con. Non, mais Backseat, c'est pas facile à animer. Hein. Je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, etc. Je l'ai bien vu en regardant Léa faire. C'est pas un exercice aisé d'animer Backseat, de tenir son antenne, de garder le rythme, etc. Très facile. C'est très difficile. Est-ce que ça t'intéresserait de faire l'émission en tant que chroniqueur? Ça pourrait être marrant. L'année dernière, j'avais fait l'émission en tant qu'invité. Je sais pas si vous vous souvenez. On avait eu Jean Massier en invité de la semaine sur la première saison, dans la dernière émission de la saison. Ça m'avait fait marrer, j'avais bien aimé l'exercice, c'était marrant. être invité de ma propre émission. Merci Fumo pour ton abonnement. L'invité qui joue à domicile, ouais. Merci, monsieur Mayol. Léa, comme animatrice, elle a du mal à pas intervenir. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un style d'animation comme un autre, c'est pas le mien, mais c'est pas grave. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, Léa, c'est ce que j'ai dit à Léa au téléphone avant l'émission pour l'aider à se préparer, etc. Je lui ai passé un coup de fil rapide en lui disant, écoute, si t'as besoin de conseils, je suis là. Mais je lui ai dit, écoute, Léa, prends en main l'émission. Fais-en ton émission. Ne fais pas une imitation de Jean Massier. Hein. C'est toi qui anime, donc c'est toi la host, donc fais-en ton interprétation de l'animation d'une émission. Vas-y. Je te demande pas d'être un calque, d'être un clone. Voilà. Elle a fait ça, et je trouve ça très bien. Elle avait sa manière à elle d'animer les temps, les moments, etc. Donc très bien, voilà. Avant d'entendre que t'étais malade, j'ai cru que c'était un choix éditorial de laisser Léa animer pour le 8 mars. Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est vraiment un hasard. Hein. Non, non, c'est vraiment un hasard. C'est pas. Oui, c'est vrai, il y avait le côté 8 mars, du coup, c'est une femme qui prend le. Non, mais en fait, non. Pas du tout. J'ai pas choisi. En plus, t'es super raccord avec le sujet du Bifor. Ouais, non, en plus, oui, c'est ça, Léa, elle m'a dit, en plus, le Bifor, ça va, je me sens à l'aise avec le sujet, évidemment, on parle de féminisme et tout, donc elle était à l'aise avec le sujet. Puis Léa, elle est comme moi, elle a rencontré suffisamment de responsables politiques pour pas être impressionnée par le premier député qui passe, donc elle a fait son interview de Louis Boyard. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très bien, quoi, voilà. Quand est-ce que ce sera le tour du Jules? Je sais pas si Usul aurait accepterait de le faire. Hein. J'en sais rien, je lui ai jamais demandé. Je suis pas sûr qu'Usul ait envie. Même pour dépanner. Je sais pas. Je sais pas si Usul est un très bon animateur de plateau. Je sais pas. Est-ce que tu pourrais envisager de passer ton bébé backseat à quelqu'un si un jour t'en as marre? Bah non. Non, j'ai pas envie. Là, c'est les circonstances qui font que, mais j'ai pas envie. Mais donc non, en tout cas, je suis très content de la solution qu'on a trouvée. En plus, évidemment, sinon c'est pas marrant, il y a eu plein de problèmes. Pendant l'émission, avant l'émission, etc. Des invités qui étaient en retard et tout, un bordel monstrueux. Ça s'est absolument pas vu, parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que moi, du coup, de l'extérieur, j'étais pas au courant de ces trucs-là, pour une fois. D'habitude, évidemment, je suis au courant du moindre câble mal branché et tout. Mais comme là, j'étais à la maison, Quentin et François, ils m'ont dit, t'inquiète, on gère avec Léa. Laisse-nous faire. Non, j'avais pas l'intention d'intervenir. Donc ils ont fait leur truc. Et le lendemain, donc vendredi hier, j'ai vu François qui m'a dit, putain, on a eu ça comme problème. Après, il s'est passé ça et tout. Et je le regardais, j'étais en mode, ah bon? Ah, j'ai rien vu. Sérieux? Ah, d'accord. Bah, chapeau, parce que ça s'est pas vu du tout. Il m'a dit, non, je sais, le rideau de fumée était parfait, personne n'a rien vu, mais comme d'hab, hein, il y a eu plein de merde. Bah écoutez, les gars, bravo, hein. Merci Electre pour ton resub, merci à toi. Merci Jumap aussi pour ton resub. Merci Ninja Snip. Merci Raisin Culteur. Merci pour vos resubs, merci. Y a combien de personnes en régie? 1, 2, 3, 5. Est-ce que ça Flight Simulator aujourd'hui? Pas cet après-midi, non. J'ai encore un peu mal au crâne quand même, hein. Est-ce qu'il y a des stagiaires sur ton émission? Non. On n'a pas de stagiaires. Encore un traitement à prendre. Oh non, j'ai pas de traitement, hein. C'est un virus, hein. Y a rien à traiter, hein. C'est Doliprane dodo, hein. Est-ce que tu vas streamer la semaine prochaine? Bah écoute, normalement, ouais, si ça continue à s'améliorer mon état de santé. Même pas un peu d'homéopathie? Ah bah si. Je me défonce à l'homéopathie, tu penses bien. Et comme c'est très peu dosé, j'en prends plein. Est-ce que tu as fait un test PCR? Oui, j'ai fait un test PCR et j'ai fait un test grippe. C'était la grippe. C'était la bonne vieille grippe. En tout cas, je me fais bien bolosser par l'année 2023 là. Mon mois de février aura quand même essentiellement consisté à être malade. Commence doucement à me gonfler. C'est bon, là, ça va, j'ai donné. Attention à l'overdose d'homéopathie. J'ai beaucoup aimé ton dernier tweet sur la 6ème République, les réponses étaient bien goldées. Ah, il était bien ce tweet, hein? Est-ce que tu peux réexpliquer le coup du vote bloqué? J'ai pas compris ce qui se passe, ni quand aura lieu le vote. Bah aujourd'hui, je crois. Le vote bloqué est une possibilité dans le cadre des discussions parlementaires qui permet au gouvernement de voter un article du texte, un article de la loi, enfin de faire voter les députés sur un article de la loi avec seulement les amendements du gouvernement dedans en une seule fois. Voilà. Ça fait partie de l'ensemble des techniques permettant de lutter contre l'obstruction parlementaire. On renvoie le vote à plus tard. Je crois que c'est ça. En plus, ça décale le vote à plus tard. Genre, on vote pas tout de suite. Les membres du Parlement et du gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance et en commission selon les conditions fixées par le règlement de l'Assemblée dans le cadre déterminé par une loi organique. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. Oui. Si le gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Voilà, c'est ça. 44-3. Il vote pas les amendements des sénateurs, mais il continue à débattre de ces amendements, ou j'ai mal compris. Oui, c'est ça. Quand tu engages la procédure de vote bloqué, on continue la discussion des amendements, mais on ne les soumet pas au vote. On attend la fin de la discussion sur les amendements pour proposer en une seule fois le vote uniquement sur les amendements retenus par le gouvernement. Donc soit les amendements du gouvernement lui-même, soit les amendements que le gouvernement a acceptés. Et donc le vote se fait. C'est ça qu'on appelle la procédure de vote bloqué. Ils n'ont rien accepté de la gauche. Bah, pas étonnant. Ah, fallait pas s'y attendre. C'est impressionnant comment ce gouvernement use et abuse des procédures pour au final réduire toute manipulation sur leurs propositions. Ouais, alors, il y a une partie de jeu parlementaire, comme on dit, c'est-à-dire que Il existe des possibilités pour les députés d'obstruer les débats. Il existe des possibilités pour le gouvernement ou pour la majorité de contourner l'obstruction. L'ensemble de ces procédures joue à ce jeu-là. Là, il se trouve que le gouvernement, on verra à quoi est-ce qu'on aura à l'issue de cette réforme des retraites, si elle est votée, si elle entre en vigueur, etc. Mais c'est vrai qu'on a rarement vu un gouvernement faire autant usage de procédures de rétorsion du débat parlementaire. Alors, ils ont été un peu aidés aussi par l'obstruction parlementaire là-dedans, mais une loi, enfin, on a affaire au PLFRSS, donc on a l'article 47.1 qui s'applique. On est en procédure accélérée, mais ça c'est normal dans le cadre d'un PLFRSS. On va avoir un vote bloqué du coup au Sénat, ce qui est quand même très rare. Beaucoup plus rare au Sénat qu'à l'Assemblée. Et à la fin, on aura même peut-être un 49-3. C'est quand même du forçage démocratique comme on en a rarement vu pour une loi aussi importante par ailleurs. Le cas présent, c'est un groupe d'opposition qui est majoritaire au Sénat. Oui, d'opposition, mais avec lequel le gouvernement a un accord sur cette réforme. Et c'est ça qui rend, c'est ça qui rend le débat parlementaire particulièrement difficile, parce qu'on parlait du rôle cathartique des opposants à l'Assemblée nationale, qui joue un rôle en démocratie. Le truc, c'est que le travail parlementaire, le débat parlementaire a aussi, en principe, une vocation à permettre l'acceptation sociale des lois. Sous-entendu, une loi avec laquelle je suis en désaccord, bon, mais si elle est votée par le Parlement qui a pu en discuter régulièrement, etc., je suis plus susceptible d'accepter de me conformer à la loi, puisque c'est la loi, que c'est le jeu démocratique, etc. Accepter d'être en minorité en démocratie, ça fait partie du jeu, etc. Le problème, c'est que là, les conditions d'examen de cette loi, pas du tout favoriser l'adhésion de qui que ce soit. Hein. Est-ce que toutes ces utilisations vont pas potentiellement amener à changer ces procédures? Eh bien, ça fait partie des questions, et c'est pour ça que j'ai fait un tweet pour dire, selon vous, dans une 6e République, est-ce qu'il faut permettre à un groupe d'opposition de faire obstacle à l'adoption d'une loi? C'est une vraie question. C'est une question philosophique intéressante, hein. Faut-il une minorité de blocage en démocratie? C'est une vraie question. Mais si on imagine un changement des institutions, et je sais qu'Emmanuel Macron a l'intention de faire évoluer la Constitution à l'occasion d'une réforme des institutions, ça fait partie des questions qu'on va pouvoir se poser. C'est-à-dire que le parlementarisme rationalisé de la Ve République n'est-il pas arrivé au bout, voire même à l'extrême absurdité de sa rationalisation? C'est que là, on n'est plus dans le rationnel, on n'est plus dans la rationalisation du parlementarisme. On est dans le contournement du Parlement, carrément, quoi. Donc, si la 4e République s'est perdue dans un parlementarisme exacerbé qui en est venu à des absurdités, est-ce que là, on n'est pas en train de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire d'arriver à l'absurdité du parlementarisme rationalisé? C'est comme l'article 49.3, il a une utilité lorsqu'il est utilisé de manière ponctuelle, dans des situations précises de crise au sein de la majorité, etc. C'est un article qui peut se comprendre, qui peut même s'accepter. Ça fait partie du jeu, etc., etc. Quand il commence à être utilisé matin, midi et soir, on commence à poser la question de l'utilité même de la procédure. Il y a des procédures qui, dès lors qu'elles sont exceptionnelles, ont du sens, utilisées avec parcimonie et tout, mais quand ça devient la méthode régulière d'utilisation. Je crois qu'il y a le même problème avec le gouvernement Chirac dans les années 80 sur gouverner par ordonnance. Peut-on gouverner tout par ordonnance? Et le Conseil constitutionnel avait, je crois même que le Conseil constitutionnel avait fini par mettre le holà en disant non, non, mais il y a une limite inhérente à la pratique de l'ordonnance. On ne peut pas tout faire par ordonnance. Il y avait les limites inhérentes aussi au droit d'amendement, ouais, qui avait été fixé par le Conseil constitutionnel, qui justement est là pour veiller à ce qu'on n'aille pas dans le dérapage. D'où la question que je pose et qui moi m'intéresse vraiment, c'est une curiosité que j'ai, que va dire le Conseil constitutionnel sur cette réforme des retraites? Est-ce que le Conseil constitutionnel va valider cette procédure de 47.1, vote bloqué, 49.3, etc. Je comprendrais que le Conseil constitutionnel censure la procédure en disant non, non, mais là on a atteint les limites de l'esprit de la Constitution, quoi. Pourquoi avoir un Parlement si on le rationalise au point de s'en passer dans les propositions de loi les plus fondamentales? Ouais, c'est ça la question que ça pose. C'est ça la question que ça pose. Le Conseil constitutionnel a déjà mis un stop à ce gouvernement? Oui, bien sûr. C'était la loi Avia, notamment, qui avait été censurée. Le Conseil constitutionnel n'a qu'un pouvoir, celui d'émettre un avis ou c'est plus. Ah non, c'est plus que ça. Le Conseil constitutionnel peut censurer les lois. Mais excuse-moi, c'est quand même. Après, j'en reviens aux propos qui ont été prononcés sur l'excellent plateau de l'émission Backseat par Jérôme Gage, quand je lui ai posé la question est-ce que le salut de la gauche viendra de Laurent Fabius? C'était une manière rigolote de lui demander est-ce que le Conseil constitutionnel, c'est le dernier espoir des opposants à la Constitution? Il avait répondu non. Jérôme Gage, il avait dit non, rêvez pas, enfin, sous-entendu, rêvez pas trop, le Conseil constitutionnel n'est pas là pour. Donner raison aux manifestants ou s'opposer aux 64 ans, etc. Le Conseil constitutionnel ne peut pas censurer les 64 ans. Il n'y a rien d'inconstitutionnel à modifier l'âge légal de départ à la retraite. On peut discuter de la procédure, on peut discuter de trucs annexes, machin, mais c'est pas anticonstitutionnel en soi de réformer les retraites. Donc c'est non, le Conseil constitutionnel ne va pas censurer les 64 ans. Ça, c'est non. Faut pas attendre ça, il faut pas, sinon vous allez être déçus. Donc soyez pas trop déçus. Ça fait quoi de censurer une loi? Elle est annulée. Elle ne peut pas entrer en vigueur. Alors tout ou partie d'une loi. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel peut censurer que quelques articles et valider le reste. Donc le reste ensuite va part à la, enfin, entre en vigueur. Si la procédure est censurée, que se passe-t-il? Ça dépend de ce que décide le Conseil constitutionnel. Il peut. À jurisprudence constante, ça m'étonnerait qu'il fasse ça, mais. Censurer l'ensemble de la loi parce que la procédure a été détournée. Mais il peut surtout valider la loi tout en censurant la procédure, manière de dire ce ne sera plus possible à l'avenir. Principe du précédent, jurisprudence, etc. C'est-à-dire que cette fois-ci, ça passe, mais c'est la dernière parce qu'en fait. On met des bornes, on met des machins, etc. Tu vois? Il peut faire ça. Merci Filoudon. Merci Hannibal the Cannibal. Merci Chèvre Miel. Merci beaucoup. Après la validation de la loi, il faut des décrets d'application. Les décrets peuvent-ils, doivent-ils être contrôlés par un organisme type Conseil constitutionnel? Bien sûr, le Conseil d'État. Bien sûr, le Conseil d'État sert à ça. Mais oui, c'est ce qui s'était passé avec le CPE où Jacques Chirac a promulgué la loi tout en demandant au gouvernement de ne pas l'appliquer. Donc c'était ça le CPE a été voté par le Parlement. a été validé par le Conseil constitutionnel, parce que ce n'était pas inconstitutionnel. Il a été promulgué par le président de la République, mais le président de la République a dit au gouvernement ne l'appliquez pas. Donc les décrets d'application sont en fait jamais sortis. Voilà. Donc, le CNE, par contre, est entré en vigueur. Le CPE, c'était le contrat première embauche, et le CNE, c'était le contrat nouvelle embauche. C'était la version pour les PME. Il est entré en vigueur et il est resté quelques années avant d'être abrogé. Que la réforme passe ou non, les gens nés après 73 auront bien 43 ans à travailler quand même. Loi Touraine, si je me souviens. Oui. Ah oui, non, non, cette réforme des retraites, elle concerne que les gens qui sont nés avant 73. Hein. Enfin, elle concerne tout le monde, mais elle. L'augmentation de la durée de cotisation avait déjà été décidée. C'est ça qui permet d'équilibrer les. C'est ça qui rend inutile cette réforme des retraites d'ailleurs. Du coup, le CPE n'a techniquement jamais été abrogé. Si, plus tard, ils ont revoté des lois. Enfin, après, Nicolas Sarkozy a été élu en 2007, puis il a revoté des lois, machin. Donc le CPE a bien fini par être remplacé par une autre loi. Mais en tout cas, il n'est jamais entré en vigueur. Personne n'a jamais signé un contrat première embauche CPE. Est-ce qu'il y a beaucoup de lois par an qui en abrogent d'autres? J'ai jamais entendu parler. Là, en fait, c'est le principe. Voter une loi, ça veut dire changer une loi déjà existante. Donc toute loi en abroge une autre par définition. Ou la précise. Donc cette loi, c'est juste une accélération des 43 ans, plus une obligation de travailler jusqu'à 64 ans et pas 62 par rapport à la Touraine. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La réforme des retraites actuelle, là, c'est un décalage dans le temps de l'âge légal de départ à la retraite et une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation qui, elle, avait déjà été décidée. Mais la grande différence entre la durée de cotisation et l'âge légal, c'est que la durée de cotisation, quand tu la changes, tu touches principalement les personnes qui ont fait des études longues, plutôt les gens qui ont les métiers les moins pénibles et les mieux payés, plutôt les cadres, plutôt. Alors que quand tu touches à l'âge légal, là tu touches à tout le monde, y compris aux ouvriers, aux gens qui ont commencé à bosser tôt, etc., etc. C'est d'ailleurs ce qu'a expliqué Marisol Touraine quand elle a été invitée sur la matinale de France Inter. C'est marrant parce que Marisol Touraine, elle a rejoint Emmanuel Macron en 2022. Elle a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Moi, ça m'a surpris, mais bon, écoute, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Et elle a et dans une matinale de France Inter, elle a dit qu'elle était opposée à cette réforme des retraites. Et justement, elle a expliqué ça en disant que sa réforme à elle, celle de 2013, sur l'augmentation de la durée de cotisation, déjà, elle était beaucoup plus soft. Largement étalée dans le temps pour que ça pénalise le moins de gens possible. Elle était assortie de plein de contreparties, notamment le compte pénibilité qui a été supprimé par Macron depuis. Et surtout, elle a dit, moi, quand j'étais ministre, j'ai pas touché à l'âge légal de départ à la retraite, justement parce que c'est le truc le plus injuste. Donc voilà, donc Marisol Touraine, elle est contre la réforme des retraites. Bon. Dont acte. Peut-on revenir sur cette réforme dans un prochain quinquennat et supprimer? Ah, mais on peut tout faire. Tout ce que la loi fait, la loi peut le défaire. Hein. On peut complètement refaire une réforme des retraites dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans. On fait ce qu'on veut. Hein. Enfin, future législation peut rechanger les règles. Hein. On peut juste pas toucher aux situations déjà acquises. Bah, il peut, mais enfin, va juste falloir avoir des contreparties, quoi. C'est-à-dire que si tu fais entrer en vigueur la loi qui met l'âge légal à 64 ans, puis que 5 ans plus tard, tu refais passer à 62 ans l'âge légal de départ à la retraite, tous les gens qui ont bossé 2 ans entre-temps pour avoir l'âge légal pour partir, ils vont te dire, oh, t'es sympa, mais enfin, moi, je les ai fait les 2 ans de plus. Du coup, j'ai quoi en échange? Bon, bah, si t'es pas un connard, bah, tu leur donnes une bonification, par exemple. Tu leur dis, ok, on va vous appliquer rétrospectivement les règles plus bénéfiques qui auraient dû vous être appliquées si notre réforme avait été entrée en vigueur à l'époque. Ça, on peut le faire, ça on le fait souvent, hein. Tu fais la règle, donc tu recalcules et tu dis, voilà, on va augmenter votre pension de retraite avec une bonification, un bonus de machin. De toute façon, le mec, il est à la retraite, hein, tu vas pas le refaire travailler, enfin, voilà, c'est pas le sujet, mais tu lui dis, bon, bah voilà, vous avez travaillé 2 ans de plus, donc on va vous appliquer la surcote à laquelle vous auriez dû avoir droit si, etc. Tu vois comment ça marche? Question, est-ce qu'il y aura forcément un vote sur cette réforme à l'Assemblée nationale? Alors au bout du bout du bout, il y aura forcément un vote. Soit c'est un vote la semaine prochaine à l'issue de l'examen par le Sénat, le texte retourne à l'Assemblée pour être adopté, enfin à l'issue d'une commission mixte paritaire, si elle est conclusive. Et s'il n'y a pas, et s'il n'y a pas de vote, de toutes les façons, l'article 47.1 prévoit la possibilité de passer par ordonnance. Sauf que les ordonnances n'empêchent pas le vote de ratification. Une ordonnance doit être ratifiée au bout d'un moment. Donc, au bout du bout, il y aura toujours un vote. Alors, attention, quand je dis qu'il y aura forcément un vote, attention. Vous me voyez venir. Vous me voyez venir. Il y a la possibilité d'avoir un 49-3 qui permet une adoption sans vote. Ou plus exactement, une adoption à défaut de motion de censure. Voilà. Pourquoi ils attendent tout ce temps et ils font pas directement un 49-3? Parce que le gouvernement veut éviter au maximum d'avoir à faire un 49-3. Elisabeth Borne ne veut pas avoir recours au 49-3, elle veut éviter au maximum d'y avoir recours. Donc elle va attendre la dernière minute pour voir si c'est vraiment nécessaire de faire un 49-3. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire un référendum pour cette loi? Bah non, c'est plus possible maintenant parce qu'il aurait fallu qu'une motion référendaire soit adoptée. Or, les motions référendaires ont été rejetées. Donc non. Tu penses que s'il y avait un référendum, le gouvernement perdrait? Oui, c'est à peu près sûr, oui. Bah oui, c'est très impopulaire, cette réforme des retraites. Les républicains semblent unanimement pro-réforme. Ah non, pas unanimement, c'est ça qui est intéressant. Attention, les républicains sont divisés, hein, sur cette réforme. Il y a grosso modo un tiers des républicains qui est favorable à la réforme. Il y a un tiers qui est opposé à la réforme, autour d'Aurélien Pradié notamment. Et puis il y a un tiers qui attend de voir les amendements qui vont être adoptés éventuellement au Sénat, etc. Le vote à l'Assemblée est très incertain. Bah, pour l'instant, on peut pas trop faire de. Enfin, on peut toujours faire des plans sur la comète, mais comme on ne sait pas ce qui va ressortir du Sénat, pour l'instant, c'est difficile de faire des projections. Un culte en politique, pourrais-tu m'expliquer de façon très simple l'impact qu'aura cette loi auprès des jeunes SVP? Est-ce que ces grèves peuvent changer la loi prévue? Merci, désolé de la longueur. T'inquiète. L'impact que va avoir cette loi, elle est très simple en fait. Cette loi, elle change les règles pour bénéficier d'une retraite. Voilà, c'est tout. En France, pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite, tu dois avoir deux critères qui sont obligatoires. Tu dois avoir le bon âge, qu'on appelle l'âge légal de départ à la retraite. Tu dois avoir atteint cet âge-là. Avant ça, tu n'as pas le droit d'avoir une pension de retraite. Tu ne peux pas la demander. Et en plus de ça, tu dois avoir un deuxième truc qu'on appelle la durée de cotisation. Tu dois avoir cotisé pendant une durée qui correspond à ce que la loi a prévu pour ton cas. Je ne sais pas quel est ton cas, mais peu importe. La loi dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est simplement une loi qui repousse de 2 ans l'âge légal de départ à la retraite. Voilà. On passe de 62 à 64 ans. Et en plus de ça, on accélère l'augmentation de la durée de cotisation qui va passer progressivement à 43 ans. Mais rentrons pas plus que ça dans le détail. Donc c'est aussi simple que ça. Cette réforme, voilà l'impact qu'elle va avoir. Elle va modifier les règles d'obtention de la retraite. Ce sera, il faudra attendre plus longtemps, donc travailler plus longtemps, avant de pouvoir bénéficier d'une retraite. Voilà. Et quel va être l'impact des grèves, etc. Bah, les opposants à cette réforme font des grèves et des manifestations pour expliquer leur mécontentement au gouvernement, dans l'espoir de faire reculer le gouvernement pour que le gouvernement retire son projet de loi ou le modifie. C'est quoi la durée de cotisation actuellement? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des situations. Les durées de cotisation changent en fonction de ton régime de retraite, de ta caisse de retraite, de ton métier, etc. Il y a des carrières longues. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est aux alentours de. On est passé de 41 ans à progressivement 43 ans de cotisation. À terme, en 2030, ce sera 43 ans pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on est passé de 41 à 42, et aujourd'hui, on est aux alentours de 42. 172 trimestres, oui, voilà, c'est ça, 172 trimestres, je te laisse faire le calcul, ça fait 42. Et encore une fois, c'est une règle générale parce qu'il y a des exceptions à ça, si tu as commencé à travailler tôt, ce qu'on appelle les carrières longues. Ensuite, tu as des trimestres bonifiés, tu as des. Enfin, bon. Tu peux racheter des trimestres aussi, on va pas rentrer dans le détail. Je te laisse faire le calcul, ça fait 42, on peut l'avoir sur un t-shirt. Il me reste 17 ans de travail, soit un retraité à 67 ans. Ouais, bah c'est que t'as commencé à bosser tard. Ou que t'as eu une carrière très hachée. L'âge du taux plein, c'est indépendant des annuités? Ben non, justement, pour avoir une retraite à taux plein, tu dois avoir toutes tes annuités. Après, il y a toujours la possibilité de partir un peu plus tôt à la retraite que l'âge légal, mais à ce moment-là, tu as ce qu'on appelle une décote. Donc tu as une pension plus faible. Et à l'inverse, tu peux continuer à travailler après l'âge légal de départ à la retraite, si tu le souhaites. Et à ce moment-là, tu peux bénéficier même de ce qu'on appelle une surcote, donc une petite bonification sur ta pension qui sera un peu meilleure. Est-ce que si j'ai travaillé à 18 ans en job étudiant jusqu'à mon master en alternance, donc 22 ans, ça sera considéré comme une carrière longue vu que j'ai débuté en contrat étudiant à 18 ans? Ouais. Je sais pas, je connais pas ta situation précise. Ça dépendra le jour où tu partiras à la retraite, des règles applicables ce jour-là. Mais l'état actuel des choses, oui, si tu as commencé à bosser à 18 ans et que tu as déjà des trimestres de cotisation avant l'âge de 20 ans, je crois qu'il faut 3 trimestres cotisés avant l'âge de 20 ans, alors ton âge légal de départ sera de 62 ans, je crois. Comment on fait pour avoir une entrecôte? Pour ceux qui n'ont pas assez cotisé ou voire jamais travaillé, il y a toujours le minimum vieillesse. Alors oui, ça, mais ça c'est autre chose. Le minimum vieillesse, c'est pas une pension, c'est une allocation. ce qu'on appelle l'ASPA, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. C'est une sorte de RSA pour vieux. Désolé de le dire comme ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. Toute personne âgée d'un minimum. Je ne sais plus quel âge c'est, 67 ans, je crois. Mais c'est une allocation, c'est un minimum. Ce qu'on appelle le minimum vieillesse, c'est le minimum minimum, quoi. C'est tu survis à peine, quoi. Ouais, 67 ans. Et elle est déduite des futurs héritages. L'ASPA? Enfin, en général, quand tu touches l'ASPA, tu laisses pas grand-chose à tes petits-enfants. Donc ouais, non, faut pas confondre l'ASPA avec le minimum contributif, le MICO, dans le jargon. Qui est ce fameux 1200 euros. On en avait beaucoup parlé, 1200 euros minimum, machin, etc. Bon, en fait, on a compris que le gouvernement, il avait dit ça, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Mais le minimum contributif, c'est le minimum auquel on rehausse ta carrière, ta retraite, si tu as tous tes trimestres cotisés et que tu pars à l'âge légal. En tant qu'artiste, je cotise pour la retraite alors que j'en toucherai pas. Je suis promise au minimum vieillesse si ça ne me fait pas un père. Hein? Bah pas forcément. Si tu cotises à 67 ans, t'as le droit au minimum contributif à taux plein, quelle que soit ta durée de cotisation. Hein? Pas forcément l'ASPA. Mais il faut avoir cotisé. Est-ce qu'un doctorant cotise pour sa retraite? Ça dépend de sa situation administrative, je sais pas. Ça dépend du doctorant. S'il est en contrat de recherche rémunéré, je suppose que oui, il y a des cotisations vieillesse dessus. Mais bon, s'il est doctorant autofinancé. Je sais pas. Oui, si tu cotises même un trimestre, tu auras 1200 euros de minimum. C'est Olivier Dussopt qui a dit à Gabriel Attal, Olivier Véran aussi, ils l'ont dit à la télé. Et ils l'ont dit, ouais. Au chômage, on cotise pour sa retraite ou pas? Oui, au chômage, on cotise pour sa retraite à hauteur de un trimestre par an, je crois. Donc ça cotise un peu, ouais. Mais pas beaucoup, attention, hein. Putain, mais c'est vrai que j'ai eu 2 ans de chômage, moi. Attends. Quand je me suis lancé sur Twitch, là, j'étais au chômage comme un connard. J'ai vécu au crochet de la société. Ouais. C'est vrai. Après, j'ai bouffé des pâtes, mais je cotisais, je crois. Oui, quand même. Parasite du système. Mais de toute façon, ça, enfin, moi j'ai commencé à bosser à 24 ans, je crois. Ouais, 24. Donc je partirai à la retraite à 67 ans. Hein. Toute façon, moi j'aurai 43 ans de cotisation, quoi qu'il se passe, réforme ou pas réforme. Est-ce que tu peux réexpliquer la différence entre la réforme Touraine et la nouvelle par rapport à 43 ans? La réforme Touraine, c'est une réforme qui ne touche pas à l'âge légal de départ à la retraite, donc est toujours à 62 ans, ça change pas. En revanche, qui passe de 42 à 43 annuités de cotisation obligatoire nécessaires pour toucher une retraite à taux plein, de manière progressive. La réforme Touraine, elle a été votée en 2013. Enfin, a été introduite en 2013, votée en 2015. Non, bah non, pas 2015, pas du tout. C'était la réforme de santé, donc c'était 2013, 2014, avant la municipale, ouais, c'est ça. Et elle prévoyait une entrée en vigueur progressive. C'est-à-dire, c'est pas 43 annuités du jour au lendemain, c'est 43 annuités à horizon 2035. Donc on monte, c'est une réforme qui rentrait en vigueur petit à petit, pour pas pénaliser les gens, mais qui touchait pas à l'âge légal. Donc tu pouvais toujours partir à la retraite à 62 ans, c'est pas le sujet. En revanche, petit à petit, au fur et à mesure que la société avançait, on se dirigeait vers 43 annuités. La réforme là du SOPT, c'est une réforme qui prévoit de repousser l'âge légal de 62 à 64 ans, tout en accélérant le calendrier de la réforme Touraine. La réforme Touraine, elle allait jusqu'en 2035. Et eux, la réforme du SOPT, elle accélère puisqu'elle prévoit d'aller jusqu'en 2030. Donc en 2030, ce sera 64 ans l'âge légal, 43 annuités, la durée. Et du coup, les streamers, comment ça se passe pour les cotisations? Bah, ça dépend du régime. Ça dépend de comment le streamer se rémunère. Ça dépend donc de ses cotisations. Si tu changes de pays pour travailler dans un autre et que tu reviens 10 ans plus tard, ça change quelque chose? Oui. Ah bah oui, très probablement. C'est bien, on va pouvoir programmer 40 ans de vidéos. Il y a des poubelles qui brûlent à Paris. Bah oui, c'est la grève des éboueurs. Réforme des retraites, tout ça. Il a été dit que le compte pénibilité a été supprimé, mais le gouvernement nous a dit que la pénibilité serait prise en compte. Oui, mais alors de quelle manière? En fait, le compte pénibilité, c'est un truc qui a été créé par les socialistes, justement pendant le quinquennat de François Hollande. La prise en compte de la pénibilité pour les trimestres de retraite, c'était déjà dans le cadre de la réforme Touraine, et ensuite il y a eu dans le cadre de la loi travail la création d'un compte pénibilité qui prévoit que chaque entreprise doit tenir à jour la comptabilisation de la pénibilité des tâches des employés. Et cette comptabilisation de la pénibilité servira pour des calculs de droit, que ce soit à la retraite, au chômage, à l'assurance maladie. Évidemment, maladie professionnelle, accident du travail, etc. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, dès 2018, il a supprimé ce compte pénibilité. C'était réclamé par les entreprises, par le MEDEF notamment, qui voulait pas avoir de compte pénibilité. Donc Macron a supprimé le compte pénibilité. Et finalement, il le réintroduit, là en 2022, en 2023, à la faveur de sa réforme des retraites. En disant, si, on va finalement tenir compte de la pénibilité dans le calcul des droits à la retraite, mais de certains critères de pénibilité. Donc, dans le compte pénibilité de Hollande, il y avait je ne sais plus combien de critères de pénibilité qui étaient pris en compte. 10, 12, un truc comme ça. Et là, Macron en avait, donc les avait supprimés. Et là, il en remet quelques-uns. Pas beaucoup. 5, 6, je crois. 4, 5, je ne sais plus. Ça a été créé par Sarkozy, le compte pénibilité, avec 10 critères et Hollande en a gelé 4. Quoi? Donc en vrai, les gens devraient manifester pour retirer la réforme Touraine. Ah non. Je comprends pas l'idée d'avoir un âge légal. Je comprends les annuités, mais à quoi sert l'âge légal? Comment ça bénéficie à notre système de retraite? L'âge légal, c'est l'âge à partir duquel tu peux faire valoir tes droits. Avant cet âge-là, c'est pas la peine de te présenter au guichet pour demander à partir à la retraite. Tu n'as pas le droit de partir à la retraite. Sauf retraite anticipée, tout ça, machin, je rentre pas dans le détail. Est-ce que ça existe vraiment les travaux pénibles? J'ai bossé en usine et en entrepôt jusqu'à m'en blesser et perdre mon boulot, car plus capable physiquement, et c'était pas considéré comme pénible au vu de la loi. Eh ben c'est pas normal. Justement, c'est tout le problème. C'est que selon beaucoup de gens, selon les organisations syndicales, la pénibilité n'est pas assez reconnue. C'est Sarko qui a introduit la pénibilité en 2010. Oui, dans la réforme d'Éric Woerth, oui, sur la pénibilité, notamment sur les départs anticipés à la retraite. Je viens de voir que Chloé Ridel est désormais porte-parole du Parti Socialiste. Elle sera toujours chroniqueuse de Backseat. Ah bon? Elle est devenue porte-parole, celle-là? Ah ouais! Je rejoins le Parti Socialiste comme porte-parole. Au moment où notre pays est brutalisé par une réforme injuste du système des retraites, alors qu'il devrait engager la bifurcation écologique, s'attaquer aux inégalités sociales et tout. Si je rejoins aujourd'hui le PS, c'est aussi parce qu'il s'est ouvert au rassemblement des gauches, que j'ai longtemps attendu, comme beaucoup. D'accord, elle a fait un thread pour dire qu'elle rejoignait le Parti Socialiste. Bah, on avait déjà Claire Lejeune, qui était candidate NUPES, avec l'étiquette écolo. On a comment il s'appelle Malek Délégué, qui est un ancien socialiste. Les anciens, il doit y en avoir beaucoup. Oh. Il y en a deux, trois des anciens socialistes. En tout cas, t'étais pas au courant, j'ai l'impression. Ah non, non, j'étais pas au courant. Bah après, elle me doit rien, Chloé, hein. Moi, je bosse à la RATP. Beaucoup de retraités reviennent bosser. Y a-t-il un moyen de recotiser pour enlever de la décote si t'as pas tous tes trimestres? Je crois qu'ils en ont parlé. Oui, bien sûr. Porte-parole d'un parti, c'est gênant pour être chroniqueuse. Non. Enfin, ça dépend. Moi, je m'en fous. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie en dehors du plateau. Moi, je suis maître de personne. Ce que je veux, par contre, c'est que les chroniqueurs, ils aient une autonomie d'analyse, c'est tout ce que je leur demande. Je veux qu'ils soient autonomes dans leurs analyses. Je veux pas qu'ils viennent me réciter les communiqués de presse d'un parti, ça j'en ai rien à foutre. Les perroquets qui répètent la parole du parti, ça m'intéresse pas. Pas en chroniqueur en tout cas. Ce serait pas très intéressant. Ah non, ce serait chiant même. Ah non, puis en plus, les porte-paroles de parti, ils ont une fâcheuse tendance à devenir relous dès qu'ils sont porte-paroles de parti. C'est marrant quand même, ça. Une espèce d'automatisme, tiens. Tiens, ça y est, je suis chiant. Bah, je sais pas, je vais en parler avec Chloé, elle va me dire. Mais je veux pas la parole du PS sur mon plateau, j'en ai rien à foutre, j'en ai pas besoin. Mais Chloé Ridel, elle est pas que porte... Enfin, je veux dire, le fait qu'elle devienne porte-parole du Parti Socialiste ne la fait pas devenir, du jour au lendemain, moins intéressante que ce qu'elle a à dire. Elle est quand même coprésidente de l'Institut Rousseau. Elle est cofondatrice de l'association Mieux Voter. Si elle continue à avoir son autonomie d'analyse et son recul critique, très bien. Ça la définit pas à part entière. Bah non, j'espère pas. Est-ce qu'elle va mettre une petite rose dans son pseudo Twitter? Ah non, faites pas ça. Hey coucou, j'ai claqué mon Prime pour revoir Backseat. Oh, c'est une riche idée ça. J'espère que ça t'a plu. Faudra bien le dire sur Backseat histoire que tout le monde soit au courant. Bah grave, qu'elle nous explique. Porte-parole, ça veut dire expert en langue de bois, seulement si tu es au pouvoir ou si on te demande d'être critique envers ton parti. A pas que les porte-paroles, les militants aussi, hein. C'est normal. Coucou Jean, j'ai envie de soutenir Backseat en achetant un t-shirt brodé, ils seront dispo quand? Merci en tout cas de ta part, c'est très sympa. Ils seront dispo lundi. On a refait le point, on est en train de refaire des tests avec le prestataire machin. Parce que c'est une nouveauté du coup les machins. Donc lundi normalement on vous met en ligne les t-shirts, le t-shirt brodé, la casquette brodée. Ça va être magnifique. Pourquoi il n'y a pas de place pour le 30 mars? Parce que le 30 mars, il n'y a pas Backseat. Ça, on l'a décidé à l'avance. Le 30 mars, c'est relâche. Une semaine de pause pour toute l'équipe. On va pouvoir souffler un peu. Dodo. Voilà, 30 mars, pas Backseat. Le 30 mars, Jean sera malade. Voilà, c'est ça, je serai malade. C'est la seule émission où je pouvais venir. Ah non, mais commencez pas, hein. On fait ce qu'on peut, on est obligé de faire. Voilà, il y a des moments où on prend des décisions. Est-ce que tu seras à la TwitchCon à Paname? Ouais, j'y passerai, ouais. Les gens peuvent venir se rassembler dans un bar, papoter, faire la tête. Oui. J'achèterai bientôt, je suis en déplacement, un sweat Backseat. Si je croise quelqu'un d'autre avec un vêtement Backseat, c'est quoi le code? On doit s'offrir une bière. Graf. C'est vrai ça, c'est quoi la procédure quand on croise quelqu'un dans une gare qui porte un sweat Backseat? C'est quoi le signe de reconnaissance? Crier 49-3. On calcule notre retraite ensemble. Un hochement de tête et un clin d'œil. Ce serait cool de lancer l'idée, on se reconnaît, on boit un verre. J'avoue. Obligé de débriefer la semaine politique. Ouais, j'avoue, c'est ça, la procédure, c'est ça. Quand y a deux personnes qui portent un t-shirt ou un sweat backseat qui se reconnaissent dans la rue, ils ont l'obligation d'aller boire un verre ensemble et de débriefer de la semaine politique. Ah non, dans la procédure, il y a une obligation, c'est vous êtes obligé de m'envoyer un selfie. Moi, je veux voir vos belles bouilles. Obligatoire. Vous m'envoyez un selfie en DM, comme vous pouvez, par mail et tout, en me disant coucou, regarde, on s'est croisés, on se connaissait pas il y a 5 minutes. Voilà. Est-ce que le sweat, il existe en autre chose que blanc? Mais bien sûr, regarde, 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 regarde. Je vais te montrer. Hop, regarde, tu vas dans le shop, boum, tu regardes le sweat là, tu cliques dessus. Et là, regarde, tu peux choisir la couleur. Il existe en noir, il existe en gris. Il existe en navy et il existe en blanc. Tu choisis ta taille, ça va jusqu'à 5 XL. Tu choisis ta quantité, t'en prends pour tes frères, tes sœurs, tes machins. Et tu payes 419 euros. C'est lequel ton chouchou? Moi je préfère le navy, regarde, je vais vous montrer, j'ai le gris. Le gris, donc le gris c'est celui-là. Et le navy, j'ai le t-shirt. Voilà. Ça, c'est le t-shirt navy. Et donc, c'est le même bleu version sweat pour le navy. C'est cool, hein? Et du coup, les brodés. Où est-ce que je peux les retrouver, les brodés? En train de faire des tests, tout ça, tout ça, tout ça. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. J'ai pas le visuel. En tout cas, elle est pas dans ce dossier-là. Je vais voir si elle me l'a envoyé. Excusez-moi, hein. Pemf, t'es encore là? Tu les as, toi, les visuels du t-shirt brodé? Ah, mais non, mais si, je suis con, en fait, ils sont là. Hop. Gérer le shop. Voilà. C'est brodé et en couleur, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'espère qu'on aura un petit zoom sur le brodage. Ils seront à combien les stickers? On les a mis à combien? 8 euros, je crois. 8 euros. C'est ce que j'allais demander parce que c'est pas facile au niveau du procédé d'avoir une broderie dégradée comme ça. Ah non, c'est pas facile. Broderie en couleur, c'est pas simple, hein. Et la casquette aussi, elle va être magnifique. Essayer de vous la montrer. Classe, hein? Petite broderie, là. Mais je vais, mais il faut que j'en commande une pour voir ce que ça rend. Ça va être trop bien. Bonnet phrygien Baxit. Attendez, j'ai reçu un bouquin par la poste. Qui c'est? Édouard Jourdain, Le sauvage et la politique, aux presses universitaires de France. Perspective critique. Pour Jean Massier, ce livre, qui j'espère animera des perspectives sauvages. Édouard Jourdain, merci Édouard, merci beaucoup. Édouard Jourdain est chercheur en théorie politique, spécialisé de la pensée anarchiste. Dans la collection Perspectives critiques, il est auteur de Théologie du capital. Le sauvage et le politique. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Qu'est-ce que la civilisation? Qu'est-ce que cette construction, mêlant politique, économique, morale et même écologie, à laquelle nous continuons à nous rattacher comme à une bouée de sauvetage? Qu'est-ce que la civilisation lorsqu'il devient de plus en plus évident que les civilisés le sont bien peu et que leur nom se perpètrent les et quand leur nom se perpètrent les pires violences, les pires injustices et jusqu'à la destruction même de la planète. S'inscrivant dans les pas des figures fondatrices de l'anthropologie anarchiste telles que David Graeber ou James C. Scott, pardon, Édouard Jourdain propose un vaste périple au cœur des ambiguïtés de cette si étrange civilisation et de son double nécessaire, la sauvagerie. Car bien loin de ne concerner que les simples détails esthétiques ou des divergences de mœurs, le pas de côté vers les sauvages, entre guillemets, permet de mettre en cause jusqu'aux évidences en apparence les mieux assises de notre civilisation. Propriété, État, individu, droit, démocratie et ainsi de suite. Face à l'effondrement de la civilisation issue de la modernité, c'est du côté du sauvage que les civilisés trouveront peut-être de quoi penser enfin leurs conditions et ses possibles échappatoires. Merci Édouard Jourdain de m'avoir envoyé ce nouveau bouquin aux presses universitaires de France, 23 euros, et ça fait 350 pages. Non, 400 pages. C'est cool? Un bouquin anarchiste. Eh ben très bien. Merci beaucoup. Eh bien, merci Bing. Ça fait plaisir. Et ça, c'est quoi? Sors un bouquin. Une République à bout de souffle de Fabien Escalona. Aux éditions du Seuil Libellé. 4,50 €. Fabien Escalona, c'est Mediapart. Il est plus petit celui-là. La crise de régime que nous vivons en France n'est pas qu'une affaire de droit constitutionnel. Elle touche les institutions, mais aussi les compromis sociaux et l'horizon du sens donné au pays. Sur ces trois dimensions, la Ve République accumule désormais les contradictions et les archaïsmes. Sa vulnérabilité augmente face aux tensions autoritaires. Pardon, sa vulnérabilité augmente face aux tentations autoritaires. Un nouveau partage des pouvoirs serait salvateur pour une République enfin sociale et écologique. Oui, c'est ça, Fabien Escalona. Cher Jean, j'ai le plaisir de vous adresser cette réflexion sur une République à bout de souffle. Bien à vous, Fabien Escalona. Merci, Fabien! La République à bout de souffle, par Fabien Escalona, aux éditions Seuil Libellé, 4,50 €. Pas mal. Si... C'est pas très long. C'est pas très long. 50 pages. Et je vais vous en faire la lecture immédiatement. Non, je déconne. Eh bien, merci beaucoup. Journaliste à Mediapart, docteur en sciences politiques. Oui, c'est ça. Il a publié La reconversion partisane de la social-démocratie européenne et co-dirigé plusieurs ouvrages académiques parus en anglais. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai reçu encore d'autres bouquins? Non, celui-là, on l'avait déjà vu. Bienvenue dans la grande librairie. Comment va notre fiévreux survivant? Ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux. Imhotep. Le reste du courrier, c'est des factures. C'est exactement ça. Et le chat, ça vient. Ah bah non, non, bah là, du coup, avec la maladance, j'ai pris du retard au niveau de tout ce qui est potichat. Mais je suis toujours sur le dossier. Je suis toujours sur le dossier Potichat. Il faut encore que je fasse des relances. Il y a un viewer d'ailleurs qui m'a rencardé sur un Potichat. Et ça va peut-être le faire. En tout cas, j'en serais très heureux. Mais il faut que j'aille lui rendre visite et il habite loin, le Potichat. T'as prévenu ta future copine allergique? Ah bah je l'ai larguée. Est-ce que tu sors de la capitale? J'aimerais bien te rencontrer un jour, mais je peux pas psychologiquement rentrer dans la capitale. Moi, je peux pas psychologiquement sortir de la capitale. Non, je déconne. Oui, bah oui, ça m'arrive de sortir, oui, des fois. L'eau potichat d'abord. Quid du potichat malade que tu envisageais d'adopter? Non, non, ça j'ai laissé tomber. En lien avec l'association, on a décidé que c'était pas une bonne idée. Adopter quelqu'un qui vit seul, adopter un potichat qui a besoin de médicaments tous les jours, c'est prendre un risque important si jamais je suis coincé à la dernière minute par une grève, un train annulé, un truc comme ça. Un chat qui peut pas se permettre de sauter des médicaments, c'est pas une très très bonne idée. Donc on a laissé tomber. J'ai déjà vu Jean de l'autre côté du périph', c'était compliqué. Ah ouais, t'as vu, un hein, mauvais souvenir. Hein. Non, non. À quand le petit chat en invité politique de Baxit? Bah, faudra déjà que j'en ai un, de petit chat. Mais c'est galère, parce qu'en plus, comme j'ai pas de bagnole, moi, je peux pas courir toute l'île de France là pour aller rencontrer des petits chats qui habitent au fin fond de la Seine-et-Marne. Je fais ce que je peux, hein. Je fais ce que je peux, hein. Les petits chats de la ruralité. Parce qu'il y a des gens dehors de la capitale. Ouais, des provinciaux. Quel connard. Je te passe le chat à la frontière parisienne. Donc si quelqu'un... Il n'y a pas une SPA dans le coin. En Île-de-France, si, il y en a des SPA. J'y suis allé il y a une semaine. Mais il faut y aller en bagnole, quoi. Heureusement, j'étais avec quelqu'un qui était véhiculé. Les gens qui habitent en région, c'est ça. Donc si vous avez un petit chat à adopter et que vous êtes prêt à en faire la livraison à Paris, venez donc prendre un café à la maison. Les chats des territoires. Un chat sénatorial. Un chat périphérique. Tu peux aussi jouer les nounous pendant quelques semaines. Non, mais ouais, je sais. Alors, il faut que je les rappelle d'ailleurs. Il y a une asso qui m'avait proposé deux chats pour le prix d'un. En me disant, ouais, le premier c'est pour l'adopter, mais le deuxième c'est pour que vous fassiez famille d'accueil, le temps de trouver un autre adoptant et tout. Et là je leur ai dit, ouais, alors attendez, moi je veux bien être adoptant pour un petit chat, je m'étais déjà pas préparé à en avoir deux, je suis pas sûr d'avoir la place pour avoir deux chats, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et famille d'accueil, tout ça, ouais, non, vraiment, je suis pas sûr. Je veux pas prendre des engagements comme ça vis-à-vis de petits chats. Je comprends que les assos aient besoin de familles d'accueil, hein, je comprends tout à fait. Deux chats, c'est super. Mon premier chat a perdu tout son surpoids grâce au deuxième et il rajeunit de 5 ans en moins. C'est un chaton que tu veux ou peu importe. Non, moi, c'est au contraire plutôt un chat adulte. Terrible moment de l'aspiration pour toi et l'autre chat. Mais oui, non, mais voilà, enfin bref, non, je suis désolé, j'ai pas envie d'être famille d'accueil pour un petit chat en plus du chat que j'ai adopté. Non, enfin, je suis désolé. En tout cas, j'avais pas prévu ça, c'est une bonne question, mais je vais passer mon tour. Mais non, non, moi je cherche plutôt un chat solitaire. Hein. Il y a des chats qui supportent pas les autres chats. Hein. Il y a des chats qui ont besoin d'être seuls. Très bien. Une chose à la fois, passer de 0 à 2. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que passer de 0 chat à un chat malade, déjà, je suis en mode, c'est une responsabilité quand même assez importante. Mollo, quoi. Passer de 0 chat à 2 chats, pareil. Oulala. Pas chaud. Après, il y a une asso qui voulait me filer un gamin aussi, en disant, ouais, non, c'est juste le temps de... On le reprend quand il a son bac. Enfin, j'ai rien compris, mais pareil, j'ai dit, non, 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 je peux pas, je suis désolé. Non, je déconne, c'est pas vrai. Hein. Les gamins. T'as déjà un chat. J'ai déjà un chat qui ronronne, qui griffe aussi parfois. Hein. Oh. Et puis il faut le nourrir régulièrement. Hein. Sinon il gueule. Hein. Oh putain. On n'a jamais voulu m'en donner des gamins, j'ai dû les faire moi-même. Le bac propre, c'est important. Ah ouais, il faut changer la litière du chat. Gratte-moi le ventre. Est-ce que je peux griffer les rideaux? Ah non, touche pas les rideaux, hein. Ah non. C'est le taf des modos d'être l'arbre à griffes. Bah je sais pas, teste-les, tu verras. On mange les araignées. Oui, mangez les araignées. Toi aussi, tu dors avec ton chat. Ah mon Dieu. Est-ce que le chat prend toute la place dans le lit? C'est vrai ça. Non, le chat, il prend pas toute la place dans le lit. Il se met sous le lit et il griffe le dessous du matelas. Il est chiant avec ça, putain. À chaque fois, je lui dis arrête! Je pars fêter les 18 ans de ma fille. Beau gosse! Elle est célib? Stop! Pas drôle. Non. Non, pas marrant. Ah, c'est ce genre de stream. Ça y est, ça glisse. Est-ce que t'as des souris en cadeau de ton chat aussi? Oui, j'ai acheté des petits jouets. T'es créateur de contenu en ligne, genre 18 ans, c'est trop vieux pour toi. Oh non. Non, mais venez, on rigole pas avec ça en vrai. C'est pas marrant. Non. Pas ouf. Ton chat, il sera comme ça à côté de toi sur Flight Simulator. Ah ouais, on jouera à Flight Simulator avec mon chat. Très marrant, un chat qui monte sur le bureau pendant que je stream. Ça, vous pourrez le voir passer comme ça. Revenons-en au petit chat. Bah non, mais bah j'en ai pas de petit chat. Hein. Moi, il faut que j'en trouve un. Maintenant que je suis plus malade, ça y est, je peux à nouveau bouger. Donc il y a un chat auquel je vais peut-être pouvoir aller rendre visite, mais il habite loin de ouf. Donc ça va prendre une demi-journée, ça déjà. Aujourd'hui et demain se tient le salon Animal Expo à la porte de Versailles. Il y a un stand de plusieurs associations qui souhaitent faire adopter des petits chats ou petits chiens. Ah ouais? Ouais, mais. Alors déjà, il y a un délai de rétractation obligatoire légal de 7 jours. Et d'autre part, je suis encore malade. Enfin, je suis encore malade. J'estime que jusqu'à dimanche, je suis encore potentiellement contagieux, donc je vais essayer de garder ma grippe pour moi. Donc je vais pas aller. Je vais pas aller à un salon où il y a du monde. Et par ailleurs, si je pouvais bouger, j'irais à Spidon. Mais comme je suis très triste de ne pas pouvoir y aller. C'est si difficile de trouver des chats à Paris, pourquoi aller si loin? Non, c'est pas difficile. Mais enfin, si, déjà, c'est pas facile de trouver le bon chat qui correspond, tout ça, tout ça. Et par ailleurs, moi, je me suis fait caler par une association qui voulait pas me faire adopter un chat. Hein, donc, je fais ce que je peux. Hein. Faut aller sur Tinkat. Tu leur as dit quoi pour te faire recaler? Je sais pas. Je sais pas, ils m'ont même pas dit. Ils m'ont dit non, mais après échange avec les autres bénévoles et avec la famille d'accueil du chat, on pense que ce sera pas que ça va pas le faire. C'est pas grave, hein, je leur en veux pas, il doit y avoir une très bonne raison, j'en sais rien, je leur fais confiance. Ça m'a fait marrer. T'avais pas la litière bétonnière du turfu, non? Va sur un groupe Facebook de fans de chasse et tu dis que tu veux en acheter un. Hein. Bonjour, je voudrais acheter un chat. Bon, donc du coup, bah, je verrai bien. Hein. Je verrai bien. Je trouverai, j'espère, un petit chat. Ou un petit chat me trouvera. Tant que ça fit, c'est cool. C'est nous, ton chat. Allez, soyez pas jaloux. Hein. En plus, vous laissez des poils partout. Que celui des voisins au pire, j'avoue. Des petits chats, suffit de traverser la rue pour en trouver. Oui. On va venir gratter à la porte à 2 h du matin pour avoir des croquettes. On griffe tous les meubles. Un gecko. Non, une tarentule. On finance des émissions, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il faut que j'achète une protection de fenêtre. Bref, ça me fait encore beaucoup de trucs à faire. Je vais y aller, les amis. C'était juste un petit stream comme ça, histoire de dire bonjour, big up, discuter avec vous, tout ça, célébrer la fin de la maladie. Merci à toutes et à tous. On va faire un raid chez qui? Spidon? Allez, Spidon. Bon, allez, re-raid Spidon. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. C'était cool. Bonne suite de Twitch sur Spidon. Pensez à faire des dons à Médecins du Monde. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on les avait reçus en Before the Backseat. C'était cool. À très bientôt. Salut tout le monde, ciao ciao.